Deutsche Welle Afrique 7 jours.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce grand format d'Afrique 7 jours. Le menu d'Afrique 7 jours n'a pas varié. D'abord l'Afro-Presse, l'actualité africaine commentée par les éditorialistes allemands. Et c'est avec Philippe Poyan. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, un avant-goût des thèmes que vous avez retenus pour l'Afro-Presse.
Eh bien, le premier thème concernera la milice Hutu des FDLR, dont différentes factions se combattent actuellement dans l'est de la RDC. Et puis, l'autre thème concerne un ancien sportif. Il s'agit d'Oscar Pistorius et de l'audience destinée à déterminer définitivement la peine de cet ancien champion sud-africain reconnu coupable du meurtre de sa petite amie en février 2013.
Voilà, on en saura plus tout à l'heure. Merci Philippe et restez avec nous. Afrique 7 jours, c'est aussi Blogosphère, le rendez-vous avec les blogueurs africains. Et ce soir, je suis en compagnie de... Nafissa Amadou Bagna a pris part du 13 au 15 juin dernier à l'édition 2016 du GMF, le Global Media Forum organisé par la Deutsche Welle. Une interview à retrouver juste après la rétrospective hebdomadaire de l'actualité africaine. L'actualité africaine, c'est donc le Burundi. Le Burundi où une actualité fait grand bruit en ce moment. Selon nos informations, de centaines, sinon plus, de jeunes filles. Normal. Selon nos informations, de centaines de jeunes filles, sinon plus, et originaires des provinces du Burundi, sont convoyées régulièrement vers Oman et l'Arabie Saoudite. Et ces filles seraient utilisées à des fins domestiques ou sexuelles. Un phénomène que confirme le président de la FENADEV, la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, Maître Jacques Nshimirimana.
Depuis janvier 2016, nous comptons plus de 200 enfants qui seraient partis. Donc, qui seraient partis, je souligne, parce que jusqu'à présent, aucune enquête n'a été menée pour savoir exactement combien d'enfants, quelle destination, qui aurait été derrière ce déplacement. Jusqu'à maintenant, on n'en sait rien. Nous avons des plaintes des familles, des parents qui nous appellent, des informations ici et là, et nous totalisons toutes ces informations que nous recevons. Et jusqu'à présent, nous comptons plus de 200 enfants qui seraient partis depuis janvier 2016.
Du Burundi, on atterrit au Tchad. Le Tchad où les victimes de l'ex-président tchadien Hissène Habré et qui avait témoigné devant les chambres africaines extraordinaires à Dakar. Ces victimes donc disent faire l'objet de menaces et d'intimidations des proches de l'ex-homme fort de N'Djamena. C'est pourquoi ces victimes demandent l'aide du gouvernement pour les protéger. On écoute le témoignage du président de l'association des victimes du régime d'Hissène Habré, Clément Abaifuta.
Depuis que nous sommes revenus de Dakar, les menaces se sont un peu accentuées parce que les gens disent pourquoi on devait aller dire que Hissène Habré a fait ceci, Hissène Habré a fait cela. Nous recevons même des visites noctambules chez nous. J'étais à Amralgos, une femme m'a menacé pour me dire Hissène Habré à Dakar, là-bas, qu'est-ce que je fais ici en Goura? Ça n'est trop et il faudrait que vraiment le gouvernement se réveille et prenne ses responsabilités.
Nous terminons cette revue de l'actualité africaine de la semaine par le Togo. le Togo où la semaine dernière, le président de ce pays a effectué une visite officielle en Allemagne. Et c'est en marge de cette visite qu'il a accordé une interview à la Deutsche Welle, interview dans laquelle il est revenu notamment sur la coopération germano-togolaise. Fort et Sozimna Yansingbe.
Nous sentons qu'il y a un élan nouveau, une dynamique nouvelle. Nous sentons auprès de nos interlocuteurs allemands qu'ils souhaitent coopérer avec des pays africains qui sont performants. Donc c'est un défi pour justifier l'aide, mais c'est également un défi pour nous, puisque nous avons engagé une course contre la montre avec la pauvreté qu'il faut absolument réduire. Donc nous avons besoin d'efficacité, nous avons besoin de cette coopération, parce que malheureusement, nos ressources seules ne suffisent pas pour l'instant. Il faut que nous nous fassions aider par le secteur privé et par les partenaires qui veulent bien nous accompagner. Cette coopération a pu reprendre parce que je crois qu'il y a eu un sursaut du peuple togolais. Il y a eu un processus de réconciliation qui a été lancé. Il y a eu des réformes politiques qui se sont traduites par des élections organisées dans des conditions qui étaient acceptables et des résultats n'étaient pas contestés par la communauté internationale. Donc ce qui nous donne une certaine légitimité. Je crois que c'est un peu ce que les Allemands cherchaient.
Voilà, c'était à l'instant fort et Sozimna Yansingbe, le président du Togo, interrogé à Berlin par Dirk Kuip et Kusivi Tiasu. Rappelons que la coopération entre le Togo et l'Allemagne avait été interrompue pendant près de 20 ans, une coopération reprise il y a seulement 4 ans. Et nous retrouvons comme promis Philippe Pognan pour l'Afropresse. Rebonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors, l'un des thèmes que vous avez retenu cette semaine dans l'Afropresse concerne donc la milice Hutu des FDLR dont les différentes factions se combattent dans l'est de la RDC.
Oui, et à ce sujet, la Tageszeitung, la TAZ, relève que les tensions au sein de la milice rwandaise Hutu FDLR ont fortement augmenté ces derniers jours et que les armes parlent à nouveau dans les zones FDLR de l'est de la RDC. Les conflits internes sont récurrents depuis 2 ans, rappelle le quotidien berlinois, qui tente d'expliquer les raisons de ces nouveaux combats. En 2014, face à un nouveau mandat de l'ONU pour une troupe d'intervention solide, les dirigeants des FDLR avaient décidé de céder à la pression internationale et de se laisser désarmer. En échange, les combattants FDLR exigeaient des négociations avec le gouvernement du Rwanda, mais celles-ci n'ont jamais eu lieu. Ensuite, le colonel des FDLR, Wilson Irategeka, partisan de ces négociations et depuis 2014 second vice-président de l'organisation, a été suspendu de ses fonctions en mai dernier et accusé de trahison. Incitation à la haine et à la division, abus de pouvoir, tels sont les reproches formulés à son égard. Le président par intérim des FDLR, Victor Biringiro, avait informé qu'une procédure avait été engagée contre Irategeka. Irategeka voulait transformer l'organisation rebelle armée en un parti politique civil, mais cela lui a valu les critiques de nombreux membres des FDLR, surtout ceux qui, en tant que génocidaires présumés contre les Tutsis au Rwanda en 1994, sont recherchés par la justice internationale. Pour eux, un désarmement aurait signifié qu'ils auraient dû se rendre inacceptable pour la plupart des cadres des FDLR, souligne la TATS. Irategeka avait passé 1 an à l'étranger avant de rentrer en RDC en janvier dernier. Il y a 2 semaines, il a créé sa propre organisation dissidente qui recherche le dialogue avec le Rwanda. 200 combattants FDLR, surtout du Sud Kivu, se sont ralliés à lui. Des unités spéciales des FDLR sous le commandement du colonel Omega du Nord Kivu ont attaqué la semaine dernière les positions d'Irategeka à Kiyeye dans l'est du Congo. Depuis, Irategeka est en fuite, il se cache en brousse. Face aux combats et violences, la population locale panique, note le journal. Toutes les aides des organisations onusiennes et des ONG ont été suspendues par mesure de sécurité.
En Afrique du Sud, Philippe, le procès contre Oscar Pistorius a été rouvert avec 3 journées d'audience. Fin 2014, l'ex-sportif avait été condamné en première instance à 5 ans de prison ferme pour homicide involontaire. Oscar Pistorius avait passé près d'un an en prison avant d'être placé en résidence surveillée.
Oui, mais le parquet avait fait appel et finalement obtenu la condamnation de l'ancien champion paralympique pour meurtre. Cette audience était donc destinée à déterminer une nouvelle peine. Les journaux ont tous rapporté les efforts d'Oscar Pistorius pour émouvoir la cour. Au cours de l'audience, retransmise en direct à la télévision, Oscar Pistorius, vêtu d'un short de cycliste et d'un t-shirt, le visage blême, s'était levé, avait retiré ses prothèses et fait un aller-retour hésitant sur ses moignons dans la salle pleine à craquer du tribunal de Pretoria. La Frankfurter Allgemeine Zeitung parle d'une stratégie d'Oscar Pistorius qui s'est ainsi montré infirme et vulnérable devant sa juge Tokozile Mazipa. Sans ses prothèses, Oscar n'aurait pas été en mesure de se défendre contre un cambrioleur, a souligné son avocat Barry Roux. Selon ce dernier, dans la nuit de la Saint-Valentin 2013, Pistorius, qui avait enlevé ses prothèses pour dormir, avait alors tiré sur la porte de sa salle de bain, derrière laquelle il croyait qu'un cambrioleur s'était caché, tuant par malheur sa petite amie. Le procureur Jerry Nell s'est montré inflexible et au terme d'un long réquisitoire, il a réclamé l'application rigoureuse de la loi, demandant qu'une peine de 15 ans au minimum soit prononcée. La juge Tokozile Mazipa a annoncé qu'elle rendrait sa sentence le 6 juillet prochain.
Merci Philippe pour l'Afro Presse et je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end.
Bon week-end à tous.
Vous écoutez toujours Afrique 7 jours et c'est sur les ondes de la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Une pause, quelques secondes et on retrouve notre invité, Nafissa Amadou Bagna. Une interview réalisée pendant le GMF, le Global Media Forum, organisé du 13 au 15 juin dernier, ici même à Bonn. Voilà, Nafissa, vous êtes ici à Bonn, vous êtes invitée hein, au Global Media Forum. Déjà, pouvez-vous nous dire quelles sont vos impressions par rapport à ce que vous avez vu au GMF de cette année?
Voilà, c'est la première fois que j'assiste à ce genre de rencontre. Et j'avoue que ça m'a beaucoup impressionnée parce que c'est un cadre où nous, journalistes, nous devons défendre nos intérêts, quoi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé l'ouverture avec tout ce qu'on a dit sur les journalistes qui souffrent en Turquie. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai vu que, bon, c'est vrai qu'au Niger aussi, les journalistes sont victimes de répression, mais c'est pas comme la Turquie. Et j'étais impressionnée. Je me suis dit, mais bon, ça valait la peine.
Oui, mais parlons justement de la situation de la liberté de la presse au Niger. Quand même, c'est un léger mieux hein, dans la sous-région.
Oui. D'ailleurs, notre président, son Excellence Mahamadou Issoufou, a signé la déclaration de la table de la montagne. C'est pour dire un peu que nous, les journalistes nigériens, nous sommes, bon, qu'est-ce qu'il faut dire? C'est pas que nous sommes pas victimes de, mais bon, quand même, il faut reconnaître aussi que parfois les journalistes exagèrent, quoi. Donc, c'est toujours dans
l'exagération. C'était dû au manque de professionnalisme, hein, c'est ça?
Oh oui, il faut le dire, surtout dans la presse écrite. Il y a beaucoup de journalistes qui sont dans la presse écrite qui n'ont pas passé par l'IFTI, qui est une école de référence dans la sous-région en matière de formation en journalisme et de communication. Donc, tout cela fait que, bon, les gens font à leur guise, quoi.
On peut avoir une fourchette? À combien un journaliste, par exemple, de la presse privée est payé?
Un journaliste en CFA, 50 000, hein? Il y a des journalistes qui n'atteignent même pas 50 000.
Et dans la presse publique?
Dans la presse publique, là, je ne sais pas, mais je sais qu'eux, ils sont vraiment, je ne dis pas bien, mais quand même,
ils sont mieux lotis
que les journalistes de la presse privée. Cela fait que tu parles sur le terrain, tu es plus préoccupé par ce qu'on va te donner en termes de gratification que la recherche même de l'information. Donc c'est ça le véritable problème, quoi. On t'envoie, par exemple, si c'est une couverture médiatique et que tu sais que là-bas, il n'y a pas de gratification, tu es là, tu serres la mine, tu n'as pas envie d'y aller. Alors que c'est ton métier, quoi, la recherche de l'information. Que tu gagnes quelque chose ou pas, tu dois y aller et tu dois apporter l'information.
Oui, mais dans les couloirs, vous nous disiez que les journalistes, effectivement, sont plus mus par... la recherche du gain facile, les gombos comme on appelle gombos, oui. En Afrique. Mais est-ce que c'est un frein ou bien c'est une menace pour la profession?
C'est vraiment une menace. C'est vraiment une menace parce que je l'ai dit, malheureusement, c'est ça. Vous allez écouter les éditions, si vous êtes sur nos chaînes, c'est la même chose. Il n'y a pas d'innovation. Il n'y a vraiment pas d'innovation. Il n'y a pas de professionnalisme, quoi. Tout, c'est ouverture atelier, ouverture d'un séminaire. C'est tout parce qu'on se dit que là-bas, quand tu pars, tu as une gratification. Alors que ce n'est pas normal. Il faut des reportages maison, comme nous, on l'appelle chez nous. Des reportages maison, des reportages sociaux. On le fait à pas quoi, je ne dis pas qu'on ne le fait pas du tout, mais vraiment c'est toujours des couvertures, et là bon, c'est pas l'information.
Ouais. Nafissa, vous, à part le journalisme, vous animez également un blog, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est quoi? Comment ça s'appelle ce blog?
Voilà, le blog que j'anime, c'est Femmes dans les médias au Niger. C'est un blog créé par, comme je l'ai dit, par l'Association des professionnels africains de la communication, APAC. Donc, ce blog a été créé en 2013 et vraiment, nous œuvrons dans l'amélioration de l'image de la femme dans les médias. La femme dans les médias, il y a deux. La femme qui travaille dans les médias et la femme qui intervient sur les médias. La femme qui intervient sur les médias, je prends un exemple. Vous allez voir dans les publicités, dans les clips, c'est toujours la femme qu'on met au devant qui... C'est vraiment, si je peux le dire, c'est désolant, quoi. C'est vrai que, bon, pour les pubs, pour les clips, il faut mettre la femme au devant, mais c'est exagéré. Et quand c'est une femme, bon...
Vraiment, oui, mais revenons à notre sujet principal. Je sais que vous êtes très engagé dans la défense des droits de la femme. Quelle perception ont les Nigériens des femmes qui exercent dans le monde des médias?
Voilà, merci. Moi, je prends mon cas. Vous savez, la première fois que j'ai dit que j'allais m'inscrire à l'IFTIC pour devenir journaliste, on dit « Oh non, qu'est-ce que tu vas chercher à l'IFTIC? Qu'est-ce que tu vas faire? Il y a beaucoup de journalistes, tu es une femme, il faut chercher une autre. » Bon, j'ai dit « Non, moi, je veux faire le journaliste et je veux le faire. Tout ce qu'il y a dedans, là, je veux voir. » Mais c'est vrai, quand j'ai commencé... Par exemple, en tant que femme, tu viens pour chercher une information, on te parle mal, on pense que tu es une femme facile, une femme légère, alors que ce n'est pas ça. Et quand tu présentes le journal, là, c'est pire, quoi. Parce que moi, je présente le journal à la télé et je vous dis, hein, si je vous raconte ce que je vis, on te voit, on dit, ah, c'est elle qui présente à la télé, c'est comme avec tout ce qu'on a comme présenteur social et religieux, on se dit, bon, c'est elle, on la montre à la télé toutefois, tous les jours, elle s'habille mal, elle ne se couvre pas le visage, elle ne se couvre pas la tête, donc on se dit que...
Bon, mais vous êtes fière quand même hein, du métier que
oui,
vous
exercez. Oui, je suis fière, je suis très fière, voilà, je n'ai pas abandonné, je continue et je lutte pour cette cause-là. Il faut, et je le dis hein, tout le temps, il faut que ce changement-là d'abord vienne de nous, les femmes. Il faut qu'on s'impose. Je l'ai toujours dit, il faut qu'on s'impose. Ce n'est pas aux autres de défendre notre cause, c'est à nous-mêmes. Donc vraiment, je suis fière d'être journaliste. Je suis vraiment très, très, très fière.
Oui, vous avez plusieurs cordes hein, à votre arc, comme on dit. À part donc, le journalisme et le blogging, je crois que vous travaillez aussi pour Catholic Relief Service.
Voilà.
Alors, pouvez-vous nous en dire également un peu plus?
Catholic Relief Service, c'est une ONG britannique. Donc, je suis chargée de communication dans un projet qui lutte pour le changement climatique et la résilience. Et là-bas aussi, nous intervenons, nous avons plusieurs composantes, ce que nous appelons une composante, nous avons la composante JAR. Donc cette composante JAR, c'est vraiment comment amener ces femmes rurales à être résilientes face au changement climatique. Donc nous intervenons dans deux pays, au Niger et au Mali. Au Mali, c'est dans la zone de Gao et au Niger, c'est à Tillabéri. Donc voilà un peu.
D'accord. On va parler un peu de l'aspect sécuritaire puisque Boko Haram écume un peu la région, le Niger, le Tchad. Est-ce que les Nigériens ont conscience de cette menace ou bien depuis ces dernières années, en fait ces derniers mois, on n'entend plus parler de Boko Haram, même si de façon sporadique on en entend parler. Est-ce que les Nigériens ont conscience de cette menace ou bien ils se disent ben, de toute façon c'est un mal qui est là et on fait avec?
Non, les Nigériens sont bien conscients de cette menace de Boko Haram. Parce que les gens sont informés, les gens s'informent à travers Facebook. Bon, c'est vrai que c'est pas fiable, mais les gens s'informent. Par exemple, pour les dernières attaques, là, les gens, c'est vrai que, si je peux le dire, la communication est un peu faillie du côté du gouvernement parce qu'on nous dit non, tout va bien. Alors que quand tu appelles de l'autre côté, on te dit que ça ne va pas. Donc vraiment, les Nigériens sont conscients de ça et ils ont pris des mesures. Ils collaborent d'ailleurs avec les forces de défense et de sécurité qui sont sur place. Donc pour cela, vraiment, je pense que bon, ça va.
Ouais. Récemment, le président nigérien était à N'Djamena au Tchad. Il a rencontré donc son homologue tchadien, Idriss Déby. Est-ce que les Nigériens, que pensent les Nigériens? Est-ce que une intervention tchadienne est bien vue ou vous n'êtes pas blessé dans votre orgueil que votre président puisse aller demander l'aide de son homologue tchadien?
Non, parce que bon, ça, je sais que les Nigériens sont divisés parce que je sais qu'il y a d'autres qui se disent mais pourquoi si nous on a l'armée vraiment? Mais ce qu'il faut souligner, c'est que notre armée, on n'a pas on n'a pas vraiment le matériel nécessaire pour combattre Boko Haram. C'est vrai qu'on se dit, mais on a les Américains qui sont là. On a les Français qui sont sur notre territoire. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas intervenu? Donc vraiment, moi, personnellement, je pense que demander l'aide du Tchad pour lutter contre Boko Haram, moi, personnellement, j'ai aimé parce que bon... Il va de notre sécurité, quoi. Si on ne peut pas, pourquoi ne pas demander l'aide? La preuve, ils sont venus et puis voilà, quoi, maintenant ça.
Oui, comme on dit, quand la case du voisin brûle, il faut
voilà,
demander l'aide.
Voilà, tout à fait.
C'est ça. Oui, Nafissa, on va parler un peu de la gouvernance de votre pays. Hein. Le président Issoufou s'est fait réélire il y a quelques mois. L'opposition, tout naturellement, a dénoncé donc cette réélection. Vous, est-ce que vous êtes satisfait quand même de la gouvernance Issoufou? C'est une question piège, mais bon, on veut avoir votre point de vue là-dessus.
Ben écoute, moi, honnêtement, je ne m'intéresse pas beaucoup à la politique parce que je me dis que bon...
Oui, mais en tant que Nigérienne, depuis qu'Issoufou est là, un peu plus de 5 ans, vous devez quand même constater s'il y a des changements ou pas.
Oui, il y a des changements, par exemple, depuis que...
Des échangeurs qui sont construits.
Oui, c'est ça, je voulais dire. Donc, depuis qu'il est là, on a quoi? On a deux échangeurs et le troisième qui est déjà en cours.
Et c'est suffisant, vous pensez?
Bon, c'est pas suffisant. C'est vrai qu'il a construit des routes un peu partout. Mais ce qu'il faut le dire... Hein, les gens, bon, moi, je dis ce que j'entends. Les gens disent que l'argent ne circule pas assez, quoi. Peut-être c'est parce que, bon, il veut lutter contre la corruption, il veut lutter contre...
Mais le fait de nommer un de ses enfants, un de ses fils...
Conseiller.
Ça ne vous a pas choqué en tant que Nigérienne?
Bien sûr que ça m'a choqué. La preuve, lors des dernières attaques de Boko Haram, la communication a failli parce qu'il a envoyé un message sur Facebook, je compatis, c'est pas ça, quoi.
Qu'est-ce que vous attendez de lui, le fils du président, en tant que conseiller à la communication de son père?
Il est jeune, donc vraiment, il doit avoir des initiatives, quoi. Il faut innover. C'est vrai que maintenant, il est sur Facebook, il envoie des messages, mais ça ne suffit pas, quoi. Il faut surtout impliquer les jeunes. Là, lui seul, bon.
Oui, mais Nafissa, ce n'est pas quand même une première. Hein. En France, on le rappelle, l'ancien président, le défunt président Mitterrand, avait nommé donc un de ses enfants conseiller. S'il est compétent, je pense que ça peut aller, non?
Justement, s'il est compétent, mais c'est justement ça que je dis. Il faut qu'il innove, quoi. Mettre sur Facebook, envoyer des messages, ce n'est pas ça, la communication. Il faut qu'il innove et que lui-même, il faut qu'il ait des jeunes qui l'accompagnent. À lui seul, il ne peut rien faire. Et ce qu'il faut souligner, c'est qu'il va toujours... Il sera, comme c'est le fils du président, il va certainement dire du bien. Vraiment, il faut qu'il soit critique, quoi, un peu.
Toute dernière question. Quels sont vos vœux pour peut-être une presse plus indépendante, plus professionnelle, plus équilibrée dans le traitement de l'information au Niger?
Mon vœu, c'est qu'au Niger, qu'on adopte la convention collective des journalistes. Parce que ça va permettre que les journalistes soient dans des conditions meilleures. Et quand les journalistes sont dans des conditions, ils peuvent vraiment travailler, ils vont faire du professionnalisme et vraiment, ils vont innover, quoi.
Ils vont éviter de courir
derrière le gombo. Et de courir derrière le gombo, les perdiens, vraiment. Ça, c'est vraiment mon vœu le plus cher, c'est l'adoption de la convention collective. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment ça, quoi.
Oui, mais beaucoup de vos confrères se plaignent également du manque de sérieux à l'Eftik.
Voilà,
puisque
l'Eftik.
Beaucoup de journalistes de la sous-région Tchad,
Bénin, Gabon, Cameroun,
même Cameroun, voilà. Viennent se faire former. Mais beaucoup disent, hein, que ces dernières années, il y a quand même un peu de laisser aller à l'IFTIC.
Oui, il y a vraiment ça c'est vrai, il y a un peu de laisser aller à l'IFTIC. Tout ça, c'est comme je le dis, c'est des collaborateurs qui viennent enseigner à l'IFTIC et eux aussi, c'est pour on vous paye en fonction d'heure, quoi. Donc, c'est vraiment pas du sérieux. Il nous faut des enseignants qualifiés. Il nous faut des journalistes aguerris pour nous enseigner. On va pas prendre un journaliste qui est sorti de l'IFTIC il y a un an de cela pour venir. C'est vrai, il peut nous enseigner, il peut enseigner à l'IFTIC, mais je me dis, il n'a pas assez d'expérience, quoi, pour enseigner. Donc, vous voyez, le gabarit nécessaire pour enseigner. Il y a des journalistes qui sont là, très compétents, qui peuvent enseigner à l'IFTIC. Il y a des journalistes, mais tout ça là, c'est le manque de moyens.
Bien, Nafissa Amadou Bagna, merci d'être venue ici,
merci
dans nos studios.
Merci à vous aussi. Merci, allez, au revoir.
Merci, au revoir. Azretia mae begazu Palezwa mae begazu ni Anyazwa mae begazu be mayezi. Et c'est ici que s'achève Afrique 7 jours. C'était Eric Topona et je vous quitte sur ce proverbe d'Afrique de l'Ouest. L'oreiller le plus confortable est une conscience tranquille. À la semaine prochaine. We'll be right back.
Ça